C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler de SEO et pour m'accompagner, je suis avec Camille Poignant. Salut Camille.
Salut Thibaut, salut à tous. Et bien, on va aussi parler de Kelly Slater. Figure-toi que le surf est mort.
Le surf, le search, tu veux dire?
Le surf sur, le surf sur les moteurs de recherche.
Oui, le surf sur les moteurs. Il m'a surpris. Je m'y attendais pas. Toi, je sais que dans une précédente vie, t'as bouffé du search, hein. T'as fait du SEO.
Ah oui, j'ai fait un petit peu de search, ouais. Et on s'est rendu compte au fil du temps que c'est un web beaucoup plus fonctionnel qui s'est développé autour des tendances d'utilisation, des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités développées. Il y a encore 15 ans, t'étais indexé sur Google par ordre alphabétique. C'était la bataille.
Ouais, mais là, tu vois, ça remonte.
Ah ouais, mais c'est très rapide, hein, je fais pas. C'était la bataille pour acheter une URL qui commençait par un A. Enfin voilà, c'était assez débile, on va dire. Puis les mots-clés sont arrivés. Tu avais plein de mots-clés cachés dans les sites web pour ressortir sur ta thématique. Et le véritable SEO est arrivé peut-être 10 ans après. Et là, il y a eu quand même une vraie réflexion autour de la construction des searches.
Ouais, et il semblerait qu'on soit à l'aune d'une nouvelle ère, hein, notamment pour le SEO. Alors le gros sujet de ce podcast ce matin, celui que je propose en tout cas, c'est est-ce que l'avenir du SEO serait à chercher du côté du social media? Et voilà, un sujet un petit peu polémique, hein, pour les amateurs de SEO qui nous écoutent ce matin, mais on a pas mal de billes, hein, pour développer ce sujet. Déjà, la première chose qu'on peut faire, la première grosse annonce, le pavé dans la mare, c'est que 49% de toutes les recherches Google génère zéro clic.
Alors excuse-moi Thibaut, 49% c'était au premier semestre 2019, mais au deuxième semestre on est arrivé à 50,2%.
Donc voilà, plus de 50%. Donc je redis, hein, quand même, parce que c'est ouf, 50% des recherches que nous effectuons dans le moteur Google ne génèrent aucun clic, c'est-à-dire personne ne clique sur rien. Donc que se passe-t-il exactement?
Eh ben, que ce soit pour la recherche de services, toutes les entreprises commencent à prendre le pli et à remplir par exemple leur Google My Business ou à être trouvables en 15 secondes parce qu'elles sont déjà présentes sur le web, ou pour une info basique, eh ben, on a plus besoin de cliquer.
Voilà, et en fait ces chiffres, hein, on ne les invente pas, ce sont les chiffres stupéfiants d'une étude qui a été menée par le spécialiste du SEO. Il s'appelle Rand Fishkin, il a une boîte qui s'appelle Jumpshot et ils ont collecté des tonnes et des tonnes de data. C'est une société d'analyse, hein, statistique, donc ils sont vraiment spécialisés dans la data. On vous met le lien évidemment dans les notes de ce podcast vers cette étude. Et donc selon cette étude, ils ont analysé 1 milliard de requêtes dans le moteur et effectivement le nombre de recherches zéro clic, c'est-à-dire ces recherches qui n'amènent à aucun clic, eh bien, n'a cessé d'augmenter au cours des 3 dernières années pour arriver effectivement à 50%. Et les choses sont encore plus marquées sur mobile, ça c'est complètement taré. 61,2% des utilisateurs sur mobile ne cliquent pas après une recherche Google et se contentent donc, comme tu l'as dit, des informations qui sont transmises par le moteur.
Mais c'est là où on voit que le responsive, l'adaptation mobile des sites et des moteurs de recherche et des réseaux sociaux, d'ailleurs, on s'est fait la remarque hier, a totalement changé notre façon d'utiliser notre mobile. L'information va être encore plus présente, plus rapidement. On va supprimer tout ce qui est superflu au-dessus, tous les bandeaux, tout va être diminué pour arriver à l'info très vite.
Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Google souhaite concrètement conserver les internautes dans son environnement à lui, et ça, effectivement, c'est une nouveauté, comme tu le dis avant. Aujourd'hui, Google souhaite que vous passiez le plus de temps dans son écosystème. Alors, sur les 150 milliards de requêtes qui ont été analysées par l'étude, ils ont constaté, eh bien, qu'effectivement, 50% ne généraient aucun clic. 7% de tous les clics amenaient vers du paid, donc du publicitaire Google, et 6% des clics dans des sites appartenant à Alphabet, donc appartenant à Google. Donc voilà. Finalement, bah, il ne te reste quand même pas grand-chose. En gros, il te reste 45% de requêtes qui potentiellement peuvent ramener sur ton propre site web.
Et c'est intéressant là ce que tu dis. En fait, le réseau social, les réseaux sociaux se sont développés de la même manière. Aujourd'hui, Facebook va pousser son contenu natif en priorité, le contenu que tu as créé directement sur la plateforme, et ça montre aussi cette volonté de conserver les utilisateurs chez lui.
Ouais, et on va voir que le problème, c'est que ce contenu natif de Google, eh ben en fait, c'est nous tous qui l'avons créé, hein. C'est peut-être ce qu'il y a de plus polémique dans la démarche de Google aujourd'hui, c'est qu'en fait, le moteur historique de recherche eh bien, devient un moteur de contenu. Et pour ça, c'est nourri eh bien, des centaines de millions, de milliards de pages web qui lui ont été fournies. Et notamment, on y reviendra, hein, Wikipédia, vos pages Google My Business, les avis que vous posez sur Trustpilot, etc. Tout ça vient nourrir aujourd'hui un Google nouvelle formule qui commence à s'imposer, qui amène des résultats parce qu'effectivement, Google n'est plus un moteur de recherche, mais un moteur de réponse.
Exactement. Maintenant, le voyage client vers une marque ou vers un service, un produit ou quoi que ce soit, commence par une question, pas seulement par un mot-clé comme avant. Avant, on avait entendu parler d'une voiture, on tapait voiture Seat et puis les derniers modèles apparaissaient. Maintenant, on sait le modèle qu'on veut. Où puis-je trouver ce modèle ? Paf, on arrive direct sur la page du véhicule.
Ouais, c'est ça. Alors, en préparation de ce podcast, je suis allé voir des experts SEO. Hein. J'ai voulu faire les choses bien et je suis allé voir l'équipe de WAM. WAM, c'est une boîte... qui sont des Lyonnais aussi, hein. c'est une boîte spécialisée en SEO, c'est vraiment les cracks. Et David Etchelzer, qui est le patron, qui est vraiment, un gourou du SEO en France, eh bien lui, ce qu'il m'a dit à ce propos, c'est m'a dit aujourd'hui, je le cite, Google est un oracle, c'est-à-dire il a réponse à vos questions. C'est quelque chose de nouveau, et effectivement, pourquoi ? Parce qu'il y a deux outils qui ont été développés par Google. Le premier, c'est le Knowledge Graph, et puis le deuxième, c'est les Featured Snippets, on va vous expliquer ça. Le Knowledge Graph, ça a été lancé en 2012. Et qu'est-ce que c'est le Knowledge Graph ?
Le Knowledge Graph, c'est un énorme... alors, je ne vais peut-être pas avoir les bons termes. C'est un truc qui... je vois le sourire de Thibaut qui m'a balancé une question piège comme ça. c'est un accumulateur de connaissances.
Ouais, c'est une sorte de base de données, tu as raison, structurée, qui a été inventée bien pour répondre directement à des questions et non pas renvoyer vers des liens tiers. Alors, si on donne quelques exemples, par exemple, tu tapes dans Google « température moyenne à Los Angeles ». Voilà, j'ai fait la
13,
recherche ce
moi
matin.
Moi aussi, je sais.
Eh ben non, un petit peu plus que 13. Je vous mets le lien direct vers cette recherche, mais vous pouvez aussi la faire sur votre ordi ou sur votre mobile. Température moyenne à Los Angeles, eh ben, qu'est-ce que tu vas voir ? Tu vas voir que Google te donne directement la réponse. Il va te faire un bulletin météo et tu vas te retrouver avec un truc qui va prendre quasiment l'intégralité de ton écran avec eh bien tout, même des icônes, les petits soleils, les petites, et qui va te donner la température moyenne sur tel mois, tel mois, tel mois. Donc là, on voit clairement, ça c'est le Knowledge Graph, c'est cette base de données que met à disposition Google. Google et d'où elle vient, d'où viennent ces données ? Et bien encore une fois,
j'imagine que c'est une analyse des trending recherches des utilisateurs et
ouais, parfois même ils vont piquer carrément directement à la source. Hein, et c'est notamment sur le fait sur quoi visiter à Los Angeles. Si tu fais la même recherche quoi visiter à Los Angeles, qui est une recherche qu'à peu près tout le monde peut faire historiquement dans ton moteur de recherche, et ben là t'avais une opportunité SEO.
Ouais. D'avoir un article de blog avec le top 5 des choses à visiter à Los Angeles.
Exactement. Si t'étais par exemple quelqu'un qui vendait des voyages ou des visites guidées à Los Angeles, etc., évidemment que tu allais tâcher de saisir cette opportunité SEO et trouver un article qui va répondre à ça. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, tu vas être mal embarqué parce que Google te donne directement la réponse. Alors, il te met carrément des petites cartes, il te dit bah, Universal Studios, Disneyland, etc. En gros, il te donne déjà une première réponse. Et ça, c'est le Knowledge Graph qui le permet. Et parfois, il va effectivement se nourrir directement dans certains sites, dans TripAdvisor, dans Booking, dans potentiellement des blogs, etc.
Et tu sais que la première fois que j'ai découvert ça, en fait, là tu disais ça date de 2012, hein, je crois, le Knowledge Graph.
Oui.
C'est en soirée avec des potes en se disant mais putain, il a quel âge, Gérard Depardieu ? Tu tapes âge quelqu'un et paf, tu le trouves direct. En fait, ça te met juste Gérard Depardieu, âge 2.51 ans.
Ouais, ça c'est impressionnant.
Ouais, voilà. Et en plus, il réorganise ses données pour te les afficher plus rapidement et plus simplement.
Voilà. Donc ça, c'est le Knowledge Graph. Et puis il les rend très visuels, ce qui fait que dans un moteur de recherche qui est quand même assez. C'est fonctionnel, là tu as quelque chose qui devient visuel. Et donc forcément, qu'est-ce que tu vas aller chercher à cliquer sur les liens qui sont en dessous du Knowledge Graph ? Tu n'en as pas vraiment d'utilité parce que tu as eu ton info. Ça, c'est le premier outil qui a été développé par Google. Et le deuxième, c'est les Featured Snippets.
Tu parles en gros des rich snippets.
Exactement.
Que tu intègres déjà dans ton site. Alors ça fait assez longtemps que c'est en place, mais c'est tout le monde ne l'utilise pas sur ses sites web. En fait, c'est des indications, des petits robots qu'on place sur notre site pour dire à Google ce qu'il peut piocher. Donc là, c'est là où on a encore un peu la main de notre côté.
Et voilà, et l'objectif, c'est d'aller chercher la position zéro dans Google, c'est-à-dire vraiment la réponse à la question. En gros, ce que fait Google, c'est qu'il va prendre un extrait de ton site internet et il va le placer carrément dans le moteur de recherche, au-dessus des moteurs de recherche. Et comme tu dis, si tu recherches recette de la mayonnaise, si tu arrives à trouver, à te positionner dans la position position 0, et ben en fait, Google va tout simplement prendre un extrait de ton site et le mettre là et te dire, bah, c'est ça la recette de la mayonnaise.
Alors, si ça ne vous parle pas à vous, les rich snippets, clairement, la recette, c'est l'outil typique. Quand on voit 3 petites étoiles ou 5 petites étoiles en dessous d'une recette, c'est un rich snippet.
Par exemple, alors,
t'as des avis, t'as des notes, t'as plein de choses, mais celui-là, il est très visuel. Il existe depuis longtemps.
Un bon exemple de feature snippet, c'est taper dans Google comment calculer une moyenne. Je l'ai fait ce matin. Je vous mets pareil le lien vers cette recherche, comment calculer une moyenne. Et bien là, tu vas tomber sur la formule directement écrite dans la recherche Google. Donc, tu n'as pas besoin d'aller cliquer sur le site, sauf que ça, cette formule, elle vient d'un site internet où quelqu'un a réussi à se positionner en position 0. Donc, on voit qu'effectivement, les choses se durcissent côté SEO et qu'effectivement, tu as moins en moins besoin de cliquer et d'aller sur le site de la marque pour obtenir ton information.
Et pour ce mec-là qui a rempli cette formule ou tous ces gens qui ont fait des blogs de voyage à Los Angeles, Google utilise leurs données sans qu'au final, ils garantissent quelqu'un qui viendra sur leur site. C'est quand même triste.
Ben ça, effectivement, c'est la grosse polémique. Hein. C'est ce qui fait râler les gens du SEO, mais aussi les marques et surtout les médias. Hein. Les médias qui, eux, ont produit beaucoup de contenu pédagogique, informatif, etc. Et se retrouvent aujourd'hui à se faire concrètement piquer leur contenu pour Google.
Tu nous as parlé de deux outils. J'en ai un troisième, moi. Tu nous parlais de Google Knowledge. Google Knowledge et les Rich Snippets. Et tu as aussi Google Q&A. Alors ça, c'est une partie de Google My Business. Hein. Google My Business, on pourra en parler des heures. D'ailleurs, il faudra qu'on le fasse une fois, en parler vraiment en détail. Q&A, c'est les questions-réponses d'une marque, hein, cette page FAQ. On peut aussi intégrer des questions-réponses directement dans son Google My Business. S'ils sont bien tournés, ça va être un peu générique et amener les gens directement sur son entreprise. Mais en tout cas, si on met, je ne sais pas, service client, comment contacter le service client Seb, eh ben, on peut tomber directement sur la page du groupe Seb. C'est un exemple qui peut nous amener à avoir directement le résultat.
Carrément, intéressant. Donc, est-ce que ça veut dire, les amis, que c'est la mort du SEO ? Est-ce que le SEO est mort et enterré ? Eh bien, moi, je ne pense pas. Je dirais même non. La capacité d'influencer le search, elle existe toujours. Elle existe et notamment, ça passe par le... Alors, accrochez-vous bien, hein, ça va, le terme est moche, mais on SERP SEO, le S-E-R-P, le Search Engine Result Page. Comment travailler son SEO pour être présent, eh bien, dans les résultats de Google, dans les réponses que Google te donne dans cette fameuse première page, le SERP, c'est ça, c'est vers ça que tend aujourd'hui le SEO. Ça consiste en gros à optimiser, eh bien, la page de résultats que Google sort en premier et faire en sorte, eh bien, que tu puisses être présent, offrir des réponses sans pour autant qu'on ait besoin d'aller sur ton site internet.
Je résume, comment optimiser ton site web pour que Google te pique la vedette sur ton propre contenu ?
Eh bah, pas forcément ton site web, c'est bien là, c'est que est-ce que je reviens à la question, est-ce que le SEO est mort ? Non. Mais le search, c'est devenu un outil de social proof. Et là, sans doute qu'une bonne stratégie social media doit devenir votre premier outil pour ça, pour performer sur votre SERP, le Search Engine Result Page. Et donc, pour une marque aujourd'hui, sans doute que le social media est la clé de votre SEO. On va rentrer en détail là-dedans. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que pour une marque, les interactions avec ses clients ou ses prospects, elles se produisent désormais en dehors du site de la marque, hein. Nous, c'est ce qu'on dit depuis une éternité maintenant sur le Super Daily, c'est que les interactions, elles se passent ailleurs que dans votre site. Elles se passent évidemment sur les réseaux sociaux, sur les plateformes sociales, mais elles se passent aussi dans le moteur de recherche. Et puis là, on peut parler évidemment de l'importance de Google My Business.
Eh ben, on revient d'ailleurs sur la partie Q&A ou la possibilité de poser des questions à une page. Là, clairement, c'est le micro Facebook de Google My Business, là où tu peux avoir de l'interaction avec tes consommateurs. Les consommateurs posent une question qui va être vraiment là très exposée. Hein, finalement, il ne va pas falloir aller creuser dans une page Facebook. Elle va être très exposée et l'intérêt va être d'y répondre assez rapidement pour montrer que tu es présent, que tu réponds bien, que tu es correct, sans mettre de lien ou de numéro de téléphone ou d'adresse email. Je ne sais pas si tu avais remarqué.
Oui, tu n'as pas le droit.
Voilà, tu n'as pas le droit.
Oui, parce que Google My Business, ça devient aujourd'hui vital d'avoir un bon Google My Business. Qu'est-ce que tu y trouves ? Tu y trouves effectivement les horaires, les avis de tes consos, l'adresse, le téléphone, les itinéraires, éventuellement les séances si tu as un cinéma, par exemple. Même des call to action, réservations, achats, etc. En gros, objectivement, dans Google My Business, tu as tout ce que tu pourrais trouver sur ton site internet. On en avait parlé déjà dans l'épisode 137, d'ailleurs. On avait fait un gros point déjà sur Google My Daily Business. Si vous avez besoin de recreuser, allez réécouter cet épisode.
Et il y a un truc qu'on trouve assez dingue sur Google My Business, on en parle très souvent, nous ici au bureau, c'est les avis Google My Business. On peut se dire, ouais, personne ne va venir mettre d'avis sur mon entreprise, mais figurez-vous que tous ces téléphones Android ou même ces iPhones qui vont rechercher un lieu, tu cherches le supermarché Cora de ton village, tu le cherches, tu vas cliquer machinalement sur itinéraire pour que ton téléphone t'y emmène, et après ta visite, Google My Business va te mettre « qu'avez-vous pensé du lieu ?» Et toi, ça te paraît peut-être anodin, tu ne remplis pas ce truc-là, mais il y a énormément de gens qui vont machinalement mettre un avis. La poissonnière était de mauvaise humeur. Alors c'est con, mais ça se produit que vraiment comme ça dans la réalité, et il y a beaucoup de commentaires qui viennent à cet endroit-là.
Voilà, donc les interactions, elles se passent avant même d'aller dans votre site internet, elles se passent dans votre moteur dans le moteur de recherche, notamment via Google My Business, vous l'aurez compris. Ce qu'on peut dire aussi sur l'impact du social media dans votre SEO. Eh bien, avant toute chose, déjà, on peut être clair, on ne l'a pas encore dit depuis le début, mais il faudrait quand même le dire, c'est que le partage de vos contenus sur les réseaux sociaux n'a pas d'impact direct sur le référencement. En gros, là, s'il y avait encore des gens qui avaient un doute, on peut le dire clairement, c'est que les classements ne sont pas directement affectés par les signaux sociaux. En gros, si j'ai un article que je partage sur Facebook, sur Twitter, qui est extrêmement partagé, extrêmement commenté, eh ben, ça n'aura pas d'impact sur le référencement de mon lien sortant de mon site internet. C'est pas comme ça que ça marche. Je vous mets d'ailleurs un exemple avec, enfin, une démo avec un mec de chez Google qui s'appelle Matt Cutts qui explique que non, c'est pas pris en compte. Pour autant, eh ben, le social media n'a jamais été autant votre meilleur allié pour saisir les opportunités du search. Il n'y a qu'à constater un truc, c'est la place prépondérante des réseaux sociaux dans la première page de recherche de Google.
Ouais, si tu recherches le nom de ta marque, nous on l'a fait avec Supernatif, on peut aussi chercher avec le nom d'une personne, une personne qui publie beaucoup sur les réseaux sociaux, ben, on va très vite voir exactement. Il est tôt, hein, en même temps. Et on va très vite voir son compte Facebook, son compte LinkedIn, son compte Pinterest. Moi, je sais que Pinterest, par exemple, ressort très vite quand on tape mon nom dans les résultats de recherche. Et pour une marque, bien évidemment, c'est important. Tu vas retrouver ta page LinkedIn, là où tu vas communiquer beaucoup en B2B, par exemple, ressortir dans Google.
Ouais, par exemple, si on fait une recherche sur Supernatif dans Google, eh bien, tu vas constater que dans les 10 résultats proposés par le moteur de recherche, hein, dans la première page, eh bien, tu as les 4 réseaux sociaux principaux. Tu as Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. En gros, tu as déjà 4 recherches. Au milieu, tu as ton site, hein, forcément. Mais tu as déjà 4 recherches qui sont les réseaux sociaux. Sur le mobile, c'est encore plus dingue parce que tu vas avoir évidemment en premier résultat Google My Business, dont on vous a parlé tout à l'heure, qui prend quasiment l'intégralité de mon écran mobile. Et puis ensuite, tu vas retrouver un certain nombre de trucs et notamment un encart énorme sur ton dernier tweet, le dernier tweet que Supernatif a publié. Ensuite, tu as une série de vignettes vidéo issues de YouTube, de Facebook, de Twitter. Donc, en gros, Facebook remplit le moteur de recherche de données qu'il est allé piocher, qui ont été indexées, issues des plateformes sociales. Donc, il y a une évidence qu'aujourd'hui, si vous souhaitez bosser votre SEO, il faut aussi bosser votre présence social media.
Oui, comme tu le disais, on voit les derniers tweets et je rebondis sur Google My Business, on voit aussi le dernier post Google My Business, où si tu organises un événement, ça c'est assez cool, sur une période donnée, et la personne recherche le nom de ton entreprise, et ben, il va voir l'offre de l'événement qui apparaît très vite aussi dans les résultats.
Ouais, voilà, donc y a évidemment, tout est un peu corrélé, c'est-à-dire bosser votre SEO, c'est bosser votre présence social media, mais c'est surtout bosser votre preuve sociale. Il y a une évidence que si on fait une recherche sur votre nom de marque, si vous ne capitalisez pas sur la force des réseaux sociaux dans le moteur de recherche, eh ben, vous risquez d'avoir une preuve sociale assez maigre. Alors que si vous avez une présence sociale assez exhaustive, bien travaillée, avec un contenu fréquemment mis à jour, eh ben, vous allez vous rendre compte que cette première page, qui est donc une page, encore une fois, de réponse, hein, pas de résultat, qui renvoie pas de clic.
50-50
pour l'instant.
Pour l'instant.
Eh bien, vous allez vous rendre compte que la carte à jouer, elle est dans la preuve sociale. C'est ça qui a gagné aujourd'hui en social media pour votre SEO. Ce qu'on peut aussi dire, hein, et pour ouvrir le débat, eh bien, c'est qu'avec les assistants vocaux, la tendance zéro clic, elle va forcément s'accentuer sur le moteur de recherche.
Alors, le chiffre qu'on s'est noté là, qu'en 2020, le search vocal, alors on parle de toutes ces Alexa, Google Home, mais aussi les Siri et tout ce que tu utilises depuis ton téléphone, devraient représenter 50% du volume de recherche totale. En fait, en le lisant, non, c'est pas si bête, parce que c'est vrai que je recherche très souvent avec mon téléphone pour gagner 2 secondes, pour éviter de taper, en fait.
Ouais, ça, c'est une projection qui est faite par Comscore pour 2020, donc c'est vraiment demain. Demain, 50% du volume de recherche totale se fera en vocal, donc forcément sans clic. C'est-à-dire, ce que va faire Google, c'est vous donner une réponse audio, une réponse vocale, et vous dire, bah voilà ce que je peux lire. Et là encore, on peut imaginer, alors on verra à l'avenir, mais on peut imaginer que votre présence social media, la preuve sociale que vous parvenez à obtenir grâce à une présence social media bien construite, massive et cohérente, eh bien pareil, remonte dans des résultats de recherche vocaux. Voilà, vaste débat, un sujet sans fin, je pense qu'on aura l'occasion
en parler des heures.
D'y revenir dans les prochaines semaines. Chers amis qui êtes des adeptes de SEO, hein, des cracks du SEO, si vous voulez échanger avec nous de tout ça, vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas à venir nous en parler, pour tous les autres aussi d'ailleurs, et vous pouvez venir nous parler de tout ça sur les réseaux sociaux,
sur Facebook, sur Instagram, sur Google My Business, sur LinkedIn et Twitter @supernatif.
Voilà, et puis vous écoutez ce podcast dans votre application de podcast préférée. On vous remercie d'être aussi nombreux à nous écouter chaque matin. Si ce podcast vous plaît, chers amis, faites-nous plaisir et puis faites plaisir à un pote, partagez cet épisode ou partagez même un autre épisode, on sait jamais, peut-être que ça pourrait le ravir, peut-être qu'il aurait des trucs à y apprendre.
C'est certain, et même vous pouvez le partager sur votre compte Google My Business et on sera très content.
Voilà, on vous souhaite à tous une très très belle journée et on vous donne rendez-vous dès demain.
Ciao.
Merci.